France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, il y a un an, Persévérance se posait sur Mars. Ce robot de la NASA a déjà bien travaillé. Il nous a fourni des images d'une netteté époustouflante et pour la première fois, on a même eu du son. Mais qu'a-t-on appris sur la planète rouge en un an? Notre invité a toutes les réponses. Bonjour Sylvestre Maurice.
Oui, bonjour.
Vous êtes astrophysicien, un anniversaire donc. Et en plus, un cap symbolique qui vient d'être franchi, 1 million de tirs laser réalisés sur Mars. Et ça, ça doit vous faire quelque chose parce que les lasers, c'est votre bébé. C'est votre domaine.
Oui, exactement. En fait, c'est le domaine de la France. Vous savez qu'on est des grands spécialistes des lasers. Et je suis allé voir il y a 20 ans un industriel français en disant « Vous avez un laser génial, on l'emmène sur Mars ». Alors, ça nous a pris 20 ans. Deux missions, Curiosity, un instrument qui vient de passer le cap des 880 000 tirs laser. Et chaque tir laser, c'est une composition chimique de Mars. Et puis maintenant, Persévérance, 120 000 tirs laser, un peu plus. La somme des deux, ça fait 1 million, on en est très très fiers. On nous appelle, quand on est à la NASA, les Laser Guys.
Pour vous c'est dire. Pas mal comme surnom, c'est classe. Et vous le dites, donc ça sert à analyser la composition des roches, c'est ça?
Oui, voilà. Alors, nos instruments qu'on a fait sur ces deux rovers et maintenant sur Persévérance Supercam, c'est pour analyser à distance 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. On tire au laser et on sait de quoi est faite la roche. Il y a tant de, par exemple, de fer, de potassium, de sodium, la composition chimique. On a même une deuxième couleur du laser, un laser vert qui fait vibrer les molécules et on sait comment les atomes sont attachés entre eux. Voilà, comme ça, on fait la signature qu'on appelle chimique minéralogique de Mars, et avec ça, eh bien, on étudie le passé de Mars, une planète ancienne en quelque sorte.
Mais concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est comme un jeu vidéo? Vous avez une cible, vous appuyez sur un bouton et ça part?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué qu'un jeu vidéo, mais c'est vrai. Alors, non, c'est une voiture super compliquée. Persévérance, c'est une voiture de la NASA. Nous, on a joué avec le CNES, on a porté nos instruments et on pilote notre instrument. C'est-à-dire que à Toulouse, tous les soirs, alors en alternance, une fois Persévérance, une fois Curiosity, on pilote, mais on est 100. Une voiture qui se pilote avec 100 personnes. Alors, c'est un petit peu d'organisation. Les uns veulent à droite, les autres à gauche. Les uns veulent donner un coup de pelle. Nous, les gars des lasers, bon, on a envie de tirer au laser. C'est normal. Donc, on est très, très organisés et tous ensemble, on doit décider notre cap, ce qu'on fait le lendemain. C'est un jour pour le lendemain, on écrit des lignes de code à la fin. Tout ça part vers Mars, le rover le joue. Alors, certaines fois, il dit « j'arrive pas à le faire ». Donc, il nous rappelle en disant « j'arrive pas à le faire ». Puis, la plupart du temps, il arrive à faire ce qu'on lui demande. On lui a demandé de rouler, par exemple, le week-end dernier, il a fait 320 mètres d'un seul coup. On est tellement fiers. Bon, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup.
Ah, c'est et un puis, record, voilà, 320 mètres,
ça. Il renvoie les données. Dans la journée, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. C'est difficile, hein, la robotique planétaire. On parle d'une planète qui a plusieurs centaines de millions de kilomètres. Il est tout seul là-bas, il reçoit ses lignes de code, il déroule son plan, le plan qu'on lui a donné.
Mais ça veut dire qu'en un an, il a parcouru quelle distance?
Alors là, on vient de passer les 4,3 km, je crois, ce matin.
Ah ouais?
Et donc, il roule bien. Mais on n'est pas des accros de la distance, hein. C'est pas tellement notre truc. D'ailleurs, on avait fait d'abord plus de 300 millions de kilomètres pour arriver quand même déjà. Ce qui nous intéresse, c'est de voir la diversité du lieu où on est. C'est un cratère, il s'appelle G0, c'est un ancien lac. Et ce qu'on veut, c'est prélever des échantillons. Il faut qu'ils soient les plus variés possibles. C'est pour ça qu'on a besoin de rouler.
Oui, parce que ça, c'est l'autre aspect aussi. Il y a effectivement l'aspect laser, mais il a aussi une foreuse parce qu'il creuse, ce petit robot.
Oui, en fait, alors le laser, il est là pour dire, tenez, on va à droite, on va à gauche, on analyse telle roche, et puis celle-là, on va la prélever. Alors là, on a une carotteuse qui prend une petite carotte, qui la met dans un échantillon, qui scelle l'échantillon, et puis on en a fait 7 cette année, c'est-à-dire que on progresse pas mal, hein, quand même. On s'est dit qu'en 6 ans, on doit en faire une quarantaine, et quand les échantillons seront prêts, on les portera au bord du chemin, on les dépose. Et puis là, on enverra des missions pour aller les chercher. Deux missions de la NASA et de l'Agence spatiale européenne se poseront, les ramasseront, les mettront dans une petite fusée. Pour la première fois, on va redécoller de Mars et ils reviendront vers la Terre à peu près en 2031.
Alors,
voilà, donc notre recherche du passé et de savoir s'il y avait de la vie dans le passé sur Mars, si les Martiens ont finalement existé il y a à peu près 3,5 milliards d'années sur Mars, eh bien on aura la réponse un petit peu in situ, mais beaucoup quand ces échantillons reviendront dans une dizaine d'années.
Alors c'était déjà une performance exceptionnelle, on se souvient tous, il y a un an on attendait de voir comment si ce robot allait se poser correctement sur Mars. Mais alors imaginez qu'il y en ait un deuxième, une mini-fusée qui va venir, il faut qu'elle se pose juste à côté de lui pour récupérer des échantillons. C'est quoi, c'est la mission la plus complexe qui a jamais été menée dans l'espace, ça?
Alors, c'est une mission très complexe. De toute façon, les retours d'échantillons, c'est ce que nous, on appelle le Graal chez les planétologues. Mm-hmm. C'est très bien d'aller sur place, mais rien ne vaut des échantillons, des cailloux, des roches, tout ce que vous voulez, qu'on pourrait étudier dans nos laboratoires, où on a des instruments qui sont gros comme une maison. Alors que ce qu'on emporte sur place, bah, c'est la taille qu'on peut se permettre, quelques kilos en général. C'est toujours ce qui est le plus difficile. Évidemment, on l'a déjà fait de la Lune, hein, soit des astronautes, soit des missions automatiques, comme la mission des Chinois, il n'y a pas très longtemps, vient de le faire, eh bien, on l'a jamais fait de Mars. Et effectivement, c'est le défi le plus compliqué technologiquement, scientifiquement. Voilà, il faut s'y mettre à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs grandes agences, nous en France autour du CNES, mais il y a l'Agence spatiale européenne, il y a la NASA. Et voilà, j'espère qu'on va y arriver. Et je pense que tout le monde est aligné.
On l'espère évidemment. Sylvestre Maurice, juste, on a parlé des lasers, on a parlé de ces échantillons qu'on récupère avec donc un appareil qui fait des carottes. On n'a pas parlé du son aussi, parce que c'est grâce à vous aussi, à l'un de vos anciens thésards, qu'on a récupéré du son. Au-delà de la prouesse et de l'émotion que ça suscite, hein, quand on les entend, est-ce que c'est utile pour la science ?
Ah oui, c'est utile. C'est ce qu'on appelle le paysage sonore de Mars, un peu comme le paysage visuel. On ne le connaissait pas. Alors au début, on s'est dit, oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à entendre. Et là, on a fait des études, alors des thésards, c'est pour ça qu'on avait un jeune thésard, Baptiste Schild, qui s'est penché là-dessus. Il a dit, mais oui, mais on tire au laser, et à chaque fois qu'on tire au laser, ça fait un petit clac. Et quand on fait le clac, ça nous donne une composition chimique, mais ça crée un son. Alors on va écouter ce son, et on peut ainsi comprendre, finalement, bah par exemple, la vitesse du son sur Mars, comment la turbulence influe sur la vitesse du son. Et ainsi, grâce à la vitesse du son, je comprends mieux la turbulence, qui est un énorme défi sur Mars, parce qu'il y a un gros gradient de température, une variation de température importante près de la surface. Voilà, on a même écouté Ingenuity, l'hélicoptère qui se mettait à voler.
Oui, parce qu'on a réussi aussi à voler sur Mars, hein. C'est encore un truc de dingue aussi.
Ça, c'est une première. C'est un développement au départ purement technologique. On s'est dit, il faut voler sur Mars, ce qui est très difficile. Mars, il y a très peu d'atmosphère, la pression est très très faible. Donc l'hélicoptère, il fait simplement 1,8 kg, mais il a des pales qui tournent très très vite. Hein. 2500 tours par minute, c'est 4 fois la vitesse d'un hélicoptère. Alors il s'est élevé dans le ciel. On avait dit, bon, il fait 5 vols, il en est à 19 vols. Et c'est pour nous, c'est ce qu'on appelle un scout, un éclaireur. Mmh. C'est-à-dire qu'il va devant, il va à des endroits où on ne peut pas aller. Il y a des dunes, on ne peut pas rouler. Et donc, lui, il nous donne le chemin, il prend des images, on fait de la science avec ces images. Et puis, bien sûr, avec le microphone, on l'écoute. Et comme sa distance varie, on fait plein de belles physiques. Il y a la vraie physique derrière ce microphone.
Et on comprend que pour le moment, cette mission se déroule parfaitement bien. Merci beaucoup, Sylvestre Maurice, de nous avoir accordé quelques minutes. Et je le dis à nos auditeurs, ainsi certains ont envie de voir à quoi ressemble Persévérance. Il y a une réplique en taille réelle à la Cité de l'Espace à Toulouse. Il y a aussi une réplique de Curiosity. Merci à vous, Sylvestre Maurice. France Inter.